Ivanhoé, chapitre 6. Pour acheter sa faveur, je lui fais ce plaisir. S'il accepte, fort bien. S'il refuse, tant mieux. Mais je vous en prie, ne me faites aucun mal. Shakespeare, Le Marchand de Venise. Au moment où le pèlerin, éclairé par un domestique portant une torche, passait à travers le sombre labyrinthe des appartements de ce vaste et irrégulier manoir, l'Échanson vint derrière lui et se hasarda de lui dire à l'oreille que, s'il ne craignait pas de savourer une coupe de bonne hydromel, il le priait de le suivre dans son appartement, tout près de là, où étaient rassemblés bon nombre des gens de la maison, qui seraient bien aises d'entendre les nouvelles que le voyageur apportait de la Terre Sainte, et surtout celles qui concernaient le chevalier d'Ivanhoé. Vamba parut en ce moment pour appuyer cette proposition, ajoutant qu'un verre d'hydromel après minuit en valait trois avant le couvre-feu. Sans discuter une maxime soutenue par une si grave autorité, le pèlerin les remercia de leur courtoisie, ajoutant qu'il avait compris dans son vœu religieux l'obligation de ne jamais parler, dans la cuisine, des matières interdites au salon. « Ce vœu, répondit Wamba, ne conviendrait guère à un esclave. » L'Échanson leva les épaules d'un air mécontent. « Je comptais le loger dans la chambre près du grenier, dit-il à demi-voix au bouffon. Mais puisqu'il est si peu sociable avec des chrétiens, je vais le reléguer au chenil voisin de celui d'Isaac. « Anvold, dit-il au domestique qui portait le flambeau, conduisez le pèlerin dans le cabinet du sud. Je vous souhaite une bonne nuit, pèlerin, et vous fais les remerciements que mérite votre peu de condescendance. Bonne nuit, et que le ciel vous accorde sa bénédiction, répondit le pèlerin d'un ton calme, et il suivit son guide. Arrivé dans une petite antichambre sur laquelle s'ouvraient plusieurs portes et qui était éclairée par une lampe de fer, une des suivantes de Lady Rowena vint interrompre leur marche en disant d'un ton d'autorité que sa maîtresse désirait parler au pèlerin. Elle prit la torche des mains d'Anvold et, invitant ce dernier à attendre qu'elle revînt, fit signe à l'inconnu de la suivre. Apparemment, ne jugea-t-il pas convenable de refuser cette invitation comme celle d'Oswald? Car bien que son premier mouvement eût été celui d'une extrême surprise, il obéit sans faire aucune objection. Pour arriver à l'appartement de Lady Rowena, la suivante fit passer le pèlerin par un petit corridor, au bout duquel il y avait sept marches formées par des poutres de chêne solides et massives. La sauvage magnificence de ce séjour s'accordait parfaitement avec le respect dont était pénétré pour la jeune Saxonne le noble seigneur du manoir. Les murs étaient couverts de tapisseries brodées en soie, en or et en argent, qui représentaient avec tout l'art dont étaient susceptibles ces temps reculés des chasses aux lévriers et aux faucons. Le lit était orné d'une riche tapisserie du même genre et entouré de rideaux teints en pourpre. Les sièges aussi étaient recouverts d'une étoffe variée de diverses couleurs, et l'un d'eux, plus élevé que les autres, avait un marchepied d'ivoire artistement ciselé. Quatre candélabres d'argent supportant des bougies en cire servaient à éclairer ce lieu. Mais, hâtons-nous de le dire, afin qu'aucune de nos modernes beautés ne porte envie à la magnificence de la princesse Saxonne. Les murs de l'appartement avaient été si mal crépis et se trouvaient alors tellement lézardés que la riche tapisserie dont ils étaient couverts remuait au moindre souffle. De sorte que, en dépit d'une sorte de paravent destiné à les protéger, la flamme des torches vacillait comme la plume qui surmonte la toque d'un chieftain. Ici, tout était magnifique, et l'on y découvrait une grossière prétention à l'élégance. Mais ce qu'on appelle les commodités de la vie domestique, ou le confortable, y manquait presque entièrement, parce qu'il était encore inconnu. Lady Rowena, accompagnée de trois de ses suivantes, qui, debout derrière elle, arrangeaient sa chevelure pour la nuit, était assise sur l'espèce de trône déjà mentionné et semblait une reine qui s'apprête à recevoir les hommages de ceux qui l'approchent. Le pèlerin, qui connaissait son devoir, fit une profonde génuflexion. « Levez-vous, pèlerin, lui dit-elle avec grâce. Celui qui prend la défense de l'absent a droit au bon accueil de quiconque chérit la vérité et honore la valeur. Éloignez-vous, dit-elle à ses suivantes, excepté Elgita. Je veux m'entretenir avec ce saint voyageur. » Sans quitter l'appartement, ces jeunes filles se retirèrent à l'écart et s'assirent sur un petit banc de chêne placé contre la muraille, où elles se tinrent muettes comme des statues, bien qu'à une telle distance leurs chuchotements n'eussent pu interrompre l'entretien de leur maîtresse avec cet inconnu. Pèlerin, lui dit Rowena après un moment de silence, durant lequel elle semblait incertaine sur la manière dont elle commencerait la conversation. Vous avez ce soir mentionné un nom. Le nom d'Ivanhoé, je crois, ajouta-t-elle avec une sorte d'effort, dans un château où, d'après les lois de la nature et de la parenté, il aurait dû raisonner d'une manière agréable. Et cependant, telle est la perversité du sort, que de tous ceux dont les cœurs auraient dû tressaillir à ce nom, seul j'ose à peine vous demander en quel lieu et dans quelle situation vous avez laissé le jeune héros. Nous avons su qu'étant resté en Palestine, à cause de sa mauvaise santé, après le départ de l'armée anglaise, il avait été persécuté par la faction française, à laquelle les Templiers passent pour être attachés. Je connais peu le chevalier d'Ivanhoé, répondit le pèlerin d'une voix émue. Je voudrais le connaître davantage, madame, puisque vous vous intéressez à sa fortune. Je crois pourtant savoir qu'il a surmonté la persécution de ses ennemis en Palestine, et qu'il était au moment de retourner en Angleterre, où vous savez mieux que personne s'il doit trouver le bonheur. Lady Rowena poussa un profond soupir et demanda avec plus d'instance l'époque où le chevalier d'Ivanhoé pourrait rentrer dans sa patrie, et s'il ne serait pas exposé à de grands dangers sur sa route. Sur la première question, le pèlerin avoua son entière ignorance. Sur la seconde, il répondit que le voyage pouvait se faire en sûreté par Venise et Gênes, et de là par la France. Ivanhoé, ajouta-t-il, est familiarisé avec la langue et les coutumes françaises, et il n'a redouté aucun fâcheux hasard en traversant ce dernier pays. Plût à Dieu, dit Rowena, qu'il fût déjà ici et en état de porter les armes au prochain tournoi, dans lequel les chevaliers anglais auront à déployer leur habileté et leur courage. Si Athelstan de Königsberg y remportait le prix, Ivanhoé apprendrait de fâcheuses nouvelles en abordant en Angleterre. Étranger, dites-moi comment il se trouvait la dernière fois que vous l'avez vu. La maladie l'avait-elle bien affaibli? L'avait-elle beaucoup changé? Il était plus pâle et plus maigre qu'à l'époque où il revint de Chypre à la suite de Richard Cœur de Lion, et les soucis semblaient gravés sur son visage. Mais je ne l'abordai point, ne le connaissant pas. Il ne trouvera, je le crains, dans son pays natal que bien peu de motifs de chasser les soucis qui l'obsèdent. Je vous remercie, bon pèlerin, des renseignements que vous venez de me donner sur le compagnon de mon enfance. Approchez, dit-elle à ses suivantes. Offrez la coupe du repos à ce saint homme. Je ne veux pas le retenir plus longtemps. L'une d'elles lui présenta une coupe d'argent pleine d'un vin mêlé de miel et d'épices. Elle l'effleura de ses lèvres, puis la passa au pèlerin qui, avec une humble obéissance, en but quelques gouttes. Mon ami, continua-t-elle en lui offrant une pièce d'or, acceptez cette aumône comme une marque du vif intérêt que j'ai pris à votre pénible voyage, et de mon respect pour les lieux saints que vous avez visités. Le pèlerin reçut ce don en faisant un humble salut, et suivit Elgita qui le reconduisit jusque dans l'antichambre. Il y retrouva Anvold qui, prenant la torche des mains de la suivante, le conduisit avec plus de hâte que de cérémonie dans la partie extérieure et la plus sale du château, où un certain nombre de petites chambres, ou plutôt de cellules, recevaient pour y passer la nuit les domestiques du dernier ordre et les étrangers d'une classe inférieure. « Dans lequel de ces cabinets couche le juif ?» demanda le pèlerin. « Le chien de mécréant, répondit Anvold, est étendu dans celui qui est le plus voisin du vôtre. Par saint Dunstan, comme il faudra le gratter et le nettoyer avant de le rendre propre à loger un chrétien. Et où dort le porcher Gurt ?» Dans le cabinet à votre droite, comme le juif dans celui à votre gauche. Vous servez de séparation entre l'enfant de la circoncision et le gardien de ce qui est en abomination parmi les tribus d'Israël. Vous eussiez occupé un endroit plus convenable si vous aviez accepté l'invitation d'Oswald. Je me contente de ceci, reprit le pèlerin. Le voisinage d'un juif ne saurait m'imprimer de souillure à travers une cloison de chêne. À ces mots, il entra dans le cabinet qui lui était destiné et, prenant la torche des mains du domestique, il le remercia en lui souhaitant une bonne nuit. Après avoir fermé sa porte, il plaça la torche dans un candélabre de bois, Puis il promena un regard scrutateur dans ce taudis, dont tout l'ameublement consistait en une grossière escabelle de bois et en une sorte de lit fait de planches plus grossières encore, remplie de paille fraîche sur laquelle on avait étendu deux ou trois peaux de mouton en guise de couverture. Enfin, ayant éteint sa torche, le pèlerin se jeta tout habillé sur ce grabat et dormit, ou du moins resta couché jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube eussent commencé à paraître à travers la petite fenêtre grillée qui servait à la fois à introduire l'air et la lumière dans ce misérable chenil. Alors il se leva, fit sa prière du matin, et ayant rajusté son habillement, il entra dans le cabinet occupé par Isaac après en avoir levé le loquet avec la plus grande précaution. Étendu sur une couche pareille à celle qu'avait eue le pèlerin, l'Israélite était livré à un sommeil très agité. La portion de ses vêtements qu'il avait quittée la veille était disposée soigneusement autour de sa personne, comme pour empêcher qu'ils ne lui fussent dérobés pendant qu'il dormait. Un trouble manifeste était peint sur son front, et il paraissait presque à l'agonie. Ses bras s'agitaient d'une manière convulsive, comme s'il eût lutté contre le cauchemar, et des exclamations tantôt en hébreu, tantôt dans la langue moderne, mélange d'anglais et de normand, s'élevaient par intervalles. Le pèlerin distingua celle-ci. Pour l'amour du Dieu d'Abraham, épargnez un malheureux vieillard. Je suis pauvre, je n'ai pas un penny. Dussiez-vous me déchirer les membres avec des fers, je ne pourrais rien vous donner. Sans attendre la fin de la vision du juif, le pèlerin le poussa avec son bâton. Ce contact soudain parut sans doute au vieillard une continuation de son rêve et vint augmenter ses craintes. Il tressaillit, ses cheveux gris se hérissèrent sur sa tête, il sauta sur ses vêtements et, les serrant dans ses mains comme un faucon tient sa proie entre ses serres, il attacha sur le pèlerin ses yeux noirs et perçants, avec une expression de surprise et de crainte que l'on ne saurait peindre. « Ne craignez rien, Isaac, dit celui-ci. Je viens vers vous en ami. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, dit le juif grandement soulagé. Je rêvais, mais béni soit notre père Abraham, ce n'était qu'un rêve. Et, ajouta-t-il en reprenant son ton habituel, quelle affaire vous amène si matin auprès d'un pauvre juif? C'est pour vous dire que si vous ne partez sur le champ et si vous ne faites diligence, votre voyage ne sera pas sans péril. Et Dieu de Moïse, qui donc pourrait avoir intérêt à mettre en danger un pauvre malheureux tel que moi? Vous devez savoir si quelqu'un pourrait y trouver du profit. Quoi qu'il en soit, apprenez qu'hier soir, en traversant la salle, j'ai entendu le Templier parler à des esclaves musulmans en langue arabe, langue que je comprends très bien, leur donnant ordre d'épier ce matin le départ du juif, de le saisir à quelque distance du château, et de le conduire au manoir de Philippe de Malvoisin ou à celui de Réginald Front-de-Bœuf. Il serait impossible d'exprimer la terreur extrême qui à cette nouvelle s'empara du juif. Il sembla que toutes ses facultés fussent anéanties. Ses bras tombèrent à ses côtés, sa tête se pencha sur sa poitrine. Reprenant enfin un peu de force, il sortit de son lit, mais ses genoux plièrent sous lui, ses nerfs et ses muscles parurent se relâcher et perdre toute leur élasticité, et il tomba aux pieds du pèlerin, non comme un homme qui se baisse, s'agenouille et se prosterne pour exciter la compassion, mais comme cédant à l'impulsion d'une force invincible qui ne lui laissait aucun moyen de résistance. Dieu d'Abraham! Telle fut sa première exclamation en levant vers le ciel ses mains décharnées, tandis que sa tête grise restait fixée contre la terre. Ô Moïse, ô bienheureux Aaron, continua-t-il, mon rêve n'était donc pas chimérique. La vision ne m'est donc pas venue en vain. Je sens déjà leurs instruments de supplice qui me déchirent les nerfs. Je sens la torture passer sur mon corps, comme les herses, les faux et les haches de fer sur les hommes de Rabat et les cités des enfants d'Ammon. Levez-vous, Isaac, et écoutez-moi, dit le pèlerin qui voyait sa détresse avec un mélange de compassion et de mépris. Vous avez de justes motifs de terreur, en réfléchissant à la manière dont les princes et les nobles ont tourmenté vos frères pour leur arracher leurs trésors. Mais, encore une fois, levez-vous, et je vous indiquerai un moyen de vous sauver. Quittez à l'instant ce château, pendant que les étrangers y sont encore plongés dans le sommeil. Je vous guiderai dans la forêt, que je connais aussi bien qu'aucun des gardes-chasses eux-mêmes. et je ne vous quitterai qu'après vous avoir placé sous la protection de quelque chef ou de quelque baron se rendant au tournoi, protection que vous avez probablement les moyens d'acheter. » À mesure qu'il recueillait avec une sorte d'avidité les espérances d'évasion que les paroles du pèlerin faisaient naître dans son cœur, Isaac, graduellement et comme pouce à pouce, se levait de terre jusqu'à ce qu'enfin il se trouvât sur ses genoux. Il rejeta en arrière ses longs cheveux gris et sa longue barbe en fixant sur le pèlerin ses yeux noirs avec une expression d'espérance et de crainte mêlée de quelques soupçons. Mais lorsqu'il entendit la fin de ce discours, sa première terreur lui revint dans toute sa force, et il retomba la face contre terre en s'écriant « Moi, posséder les moyens de m'assurer la protection d'un homme puissant! Hélas! Si c'est en cela que consiste la seule voie de salut qui m'est réservée, comment puis-je la prendre? Moi, pauvre juif, que des extorsions de toute espèce ont déjà réduite à la misère du Lazare !» Alors, comme si la méfiance l'eût emporté sur les autres sentiments qui l'agitaient, il s'écria tout à coup « Pour l'amour de Dieu, jeune homme, ne me trahissez pas. Au nom du grand être qui nous a tous créés, juifs aussi bien que gentils, israélites comme ismaélites, ne me trahissez pas. Hélas, ne fallut-il qu'un penny pour acheter la protection du plus pauvre d'entre les chrétiens, je ne pourrais le donner. » À ces mots, il se leva et saisit le manteau du pèlerin en jetant sur lui des regards suppliants. Mais celui-ci l'arracha de ses mains comme pour éviter la souillure de tout contact avec ce misérable. « Que tu posséderais toutes les richesses de ta tribu, dit-il, quel intérêt pourrait me porter à te nuire? Ce vêtement prouve que je suis voué à la pauvreté, et je ne le changerais contre quoi que ce fût, si ce n'est contre un cheval de bataille et une cotte de maille. Du reste, ne pense pas que je me soucie de ta société ou que je me propose d'en tirer quelque avantage. Reste ici, si tu le veux. Cédric le Saxon pourra te protéger. » « Hélas, dit le juif, il ne souffrira pas que je voyage au milieu de sa suite. Saxon ou Normand rougirait de se trouver avec un pauvre Israélite. Et cependant, voyager seul sur les domaines de Philippe de Malvoisin ou de Réginald Front de Bœuf? Bon jeune homme, je vous suivrai. Hâtons-nous. Saignons nos reins, fuyons. Voilà votre bourdon. Pourquoi paraissez-vous hésiter?
« Je suis prêt, dit le pèlerin, cédant aux instances de son compagnon. Mais il faut s'assurer les moyens de sortir de ce château. Suivez-moi. » Il le conduisit vers le cabinet voisin, qui, le lecteur ne l'a pas oublié, était occupé par Gurth. « Debout, Gurth, dit le pèlerin. Viens m'ouvrir la poterne, afin que nous partions, le juif et moi. » Gurth, dont l'emploi, si méprisé de nos jours, lui donnait dans l'Angleterre saxonne autant d'importance que Mai en avait à Ithac, fut offensé du ton familier et impératif que prenait le pèlerin. « Le juif qui Trotterwood, dit-il en s'appuyant sur le coude et le considérant d'un air dédaigneux, sans bouger de son grabat. « Le juif qui Trotterwood, en compagnie d'un pèlerin ?»«
Et moi qui ai rêvé, dit Vamba, qui entrait en ce moment, qu'il dérobait un jambon. »
« Ma foi, dit Gurth, en appuyant de nouveau la tête sur la pièce de bois qui lui servait d'oreiller. « Le juif et le chrétien voudront bien attendre l'ouverture de la grande porte. Nous ne souffrons pas ordinairement que nos hôtes sortent du château furtivement et à une heure aussi indue. » « Cependant, reprit le pèlerin d'un ton ferme, je ne pense pas que vous me refusiez cette faveur. » En parlant ainsi, il se pencha sur le lit du porcher et lui dit à l'oreille et à voix basse quelques mots en saxon. Gurth tressaillit comme électrisé. Et le pèlerin, élevant le doigt dans l'attitude d'un homme qui recommande un absolu silence, s'ajouta « Prends garde, Gurth. Tu es discret, je le sais. Allons, viens ouvrir la poterne, et bientôt tu en sauras davantage. »
Gurth obéit avec joie et promptitude, tandis que Vamba et les Juifs les suivaient, aussi étonnés l'un que l'autre du soudain changement qui s'était opéré dans les dispositions du porcher. « Ma mule, ma mule !» dit le juif, après avoir passé la poterne. « Je ne partirai pas sans ma mule !»«
Va lui chercher sa mule, » dit le pèlerin à Gurth, « et tu en amèneras une autre pour moi, afin que je puisse l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit hors de ces dangereux parages. Je remettrai la bête saine et sauve à Ashby à quelqu'un de la suite de Cédric. Et toi, écoute. » Il s'approcha de Gurth et lui parla à voix basse. Certes, je le ferai volontiers, très volontiers, répondit celui-ci. Et il partit pour exécuter les ordres qu'il avait reçus. Je voudrais bien savoir, dit Vamba, quand son camarade se fut éloigné, ce que vous autres pèlerins vous apprenez dans la Terre Sainte. À dire nos prières, fou, et à mortifier notre corps par les jeûnes, les veilles et les oraisons. Vous apprenez sans doute quelque chose de plus efficace que tout cela, car comment vos oraisons et vos mortifications pourraient-elles exciter Gurt à vous ouvrir cette poterne? Comment les veilles ou les jeûnes pourraient-ils le porter à vous prêter une mule? Moi, je pense que vous en eussiez autant obtenu du favori de Gurt, de son cochon noir, en parlant à cette pauvre bête de votre repentir et de vos veilles. Tu n'es qu'un fou, Saxon, dit le pèlerin. C'est vrai, répondit le bouffon. Si, comme toi, j'étais né normand, car je te suppose tel, j'aurais eu la fortune en ma faveur, et je marcherais de pair avec un sage. Gurt parut en ce moment de l'autre côté du fossé avec les mules. Les voyageurs passèrent sur un pont-levis formé de deux planches seulement, et dont la largeur était exactement la même que celle de la poterne et d'un guichet pratiqué à la palissade extérieure qui donnait sur la forêt. Dès qu'ils furent près des mules, le juif se hâta de fixer sur la selle, d'une main tremblante, un petit sac de bougran bleu qu'il tira de dessous son manteau, et qui, disait-il comme se parlant à lui-même, ne contenait pas autre chose qu'un habillement de rechange. Alors, sautant en selle avec une vigueur et une légèreté qu'on aurait pu attendre de son âge, il se hâta de disposer son manteau de manière à dérober tout à fait au regard le fardeau qu'il portait en croupe. Le pèlerin monta sur sa mule avec moins de précipitation et en partant présenta sa main à Gurt qui la baisa avec les marques d'un profond respect. Le porcher tint les yeux fixés sur les voyageurs jusqu'à ce que les arbres de la forêt les eussent dérobés à sa vue. Il était encore dans cette attitude lorsque la voix de Vamba le fit sortir de sa rêverie. « Mon bon ami Gurt, dit le bouffon, sais-tu que ce matin tu es d'une obligeance vraiment étrange et d'une piété que je ne t'ai jamais vue? Ah, que ne suis-je un père prieur ou un pauvre pèlerin? Je profiterais au moins de ton zèle et de ta politesse inaccoutumée, et certes tu en tirerais une autre récompense que ma main à baiser. Tu n'es pas trop fou en cela, Vamba, quoique tu ne raisonnes que sur des apparences. Au surplus, le plus sage de nous n'agit pas autrement. Allons, il est temps d'aller vaquer aux soins de ma charge. » À ces mots, il retourna au château accompagné du bouffon. Cependant, les deux voyageurs faisaient route avec une célérité qui révélait les vives inquiétudes du juif qui, vu son âge, devait être peu disposé à voyager si rapidement. Le pèlerin paraissait connaître tous les tours et les détours de la forêt, choisissant les sentiers les plus détournés et excitant ainsi à chaque pas les soupçons de l'Israélite, qui lui supposait le dessein de le conduire dans quelque embuscade et de le livrer à ses ennemis. On pourrait, après tout, pardonner ses doutes à Isaac, car, excepté peut-être le poisson volant, il n'existait pas sur la terre, dans les airs ou sous les eaux, une race qui fût, comme les Juifs à cette époque, l'objet d'une persécution si générale, si constante et si cruelle. Sous les prétextes les plus légers et les plus déraisonnables, aussi bien que sur les accusations les plus absurdes et les plus mal fondées, leurs personnes et leurs biens étaient exposés à tous les caprices de la fureur populaire, car Normands, Saxons, Danois et Bretons, quoique ennemis les uns des autres, rivalisaient dans leur acharnement contre un peuple que leur religion leur ordonnait de haïr, d'outrager, de mépriser, de piller et de persécuter. Les rois de la race normande, les nobles indépendants qui les imitaient dans tous leurs actes de tyrannie, exerçaient contre ce peuple réprouvé une persécution plus régulière, dont le motif secret était une insatiable cupidité. Je citerai à ce sujet un trait bien connu de la vie du roi Jean. Il tenait enfermé dans un de ses châteaux un juif opulent, et chaque jour il lui faisait arracher une dent. Le malheureux Israélite, voyant sa mâchoire entièrement dégarnie, consentit enfin à payer au roi une somme immense, précisément celle que le tyran avait eu d'abord l'intention de lui extorquer. Le peu d'argent monnayé qui se trouvait dans le pays était presque entièrement entre les mains de ce peuple persécuté.
et la noblesse n'hésitait pas à suivre l'exemple du souverain en lui arrachant par toute espèce d'oppression, et même au moyen de tortures corporelles. Cependant, une sorte de courage passif, inspiré par l'amour du gain, portait les Juifs à braver tous les maux auxquels ils étaient exposés, pour obtenir les profits immenses qu'ils pouvaient faire dans un pays naturellement riche comme l'Angleterre. En dépit de toutes les persécutions, et malgré l'établissement d'une cour spéciale des taxes, appelée échiquier des Juifs, qui fut créée dans le seul but de les dépouiller et de les ruiner, leur nombre se multipliait, et ils devenaient possesseurs de sommes immenses qu'ils se transmettaient de main en main par le moyen des lettres de change, invention dont le commerce leur est, dit-on, redevable, et à l'aide desquelles ils pouvaient transporter leurs richesses partout où bon leur semblait. De sorte que, s'ils étaient menacés d'une trop violente oppression dans un pays, leur fortune pouvait être mise en sûreté dans un autre. Ainsi, en quelque sorte aux prises avec le fanatisme et la tyrannie de ceux sous le pouvoir desquels ils vivaient, l'opiniâtreté et l'avarice des Juifs semblaient croître en proportion des persécutions. Et si les richesses immenses qu'ils acquéraient ordinairement dans le commerce les plaçaient souvent dans une position dangereuse, d'un autre côté, elles servaient à étendre leur influence et à leur assurer un certain degré de protection. Le malheur de leur protection rendait leur caractère défiant, soupçonneux et timide, mais opiniâtre, inflexible, et fertile en inventions propres à les soustraire aux dangers qui les entouraient sans cesse. Lorsque les voyageurs eurent marché d'un pas rapide en suivant plusieurs sentiers détournés, le pèlerin rompit enfin le silence. « Regarde ce grand chêne qui tombe de vieillesse, dit-il. Il marque la limite des domaines de Front de Bœuf. Nous avons dépassé depuis longtemps ceux de Malvoisin. Nous n'avons plus à craindre d'être poursuivis. Puissent les roues de leurs chariots se briser, dit le juif, comme celles de l'armée de Pharaon, afin qu'ils soient arrêtés dans leur marche. Mais, bon pèlerin, ne m'abandonnez pas. Songez à ce fier et sauvage templier et à ces esclaves sarrasins. Peu importerait le lieu où ils me rencontreront, car ils ne respectent ni manoir ni terre seigneuriale. Nous devons nous séparer ici. Il ne convient pas que des hommes de mon caractère et du tien voyagent ensemble plus longtemps que la nécessité ne l'exige. D'ailleurs, quelle assistance pourrais-tu recevoir de moi, paisible pèlerin, contre deux païens armés ? Oh, brave jeune homme, je sais que tu peux me défendre, je sais même que tu le ferais. Tout pauvre que je suis, je peux payer ce service, non avec de l'argent, car le Dieu d'Abraham me soit en aide, je n'en ai pas, mais je t'ai déjà dit que je ne voulais de toi ni argent ni récompense. Cependant, je consens à t'accompagner, à te défendre même, s'il le faut. Car on ne pourrait faire un crime à un chrétien de défendre même un juif contre un sarrasin. Je te déposerai donc sain et sauf en main sûre. Nous ne sommes pas loin de Sheffield. Tu y trouveras des hommes de ta tribu qui t'offriront un asile. Que la bénédiction de Jacob s'étende sur toi, bon jeune homme. Je trouverai à Sheffield un abri chez mon parent Zareth, et les moyens de continuer ma route sans danger. Eh bien donc, allons ensemble jusqu'à Sheffield. En une demi-heure de marche, nos mules nous transporteront en vue de cette ville. Cette demi-heure s'écoula dans un silence absolu de part et d'autre, le pèlerin dédaignant peut-être de parler aux Juifs, excepté en cas de nécessité réelle, et le Juif n'osant adresser la parole à un homme sur qui son voyage à la Terre Sainte imprimait une sorte de sainteté. Ils s'arrêtèrent sur une petite colline, et le pèlerin dit à Isaac en lui montrant la ville de Sheffield, « C'est ici que nous devons nous séparer. Pas avant que vous ayez reçu les remerciements du pauvre Juif, car je n'ose vous prier de venir avec moi chez mon parent Zareth, qui pourrait me procurer les moyens de vous prouver ma reconnaissance. » Je t'ai déjà dit que je ne veux pas de récompense. Si, parmi le grand nombre de tes débiteurs, tu peux épargner à un malheureux chrétien, pour l'amour de moi, le supplice des fers et de la prison, je regarderai cette générosité de ta part comme une ample récompense du léger service que je viens de te rendre. Attendez, attendez ! S'écria le juif, en retenant le pèlerin par son manteau. Je voudrais faire quelque chose de plus, quelque chose pour vous-même. Dieu sait qu'Isaac est pauvre, qu'il n'est qu'un mendiant dans sa tribu. Mais me pardonnerez-vous si je devine ce que vous souhaitez le plus en ce moment ? Quand tu le devinerais, tu ne pourrais me le donner. lors même que tu serais aussi riche que tu dis être pauvre. Que je le dis, hélas, croyez-le, ce n'est que la vérité. Je suis un pauvre homme. Je suis un homme volé, endetté, un véritable mendiant. Des mains cruelles m'ont dépouillé de mes marchandises, de mon argent, de mes navires et de tout ce que je possédais. Cependant, je puis vous dire ce que vous désirez, peut-être aussi vous le procurer. C'est un bon cheval et une armure. »
Le pèlerin tressaillit et se tournant brusquement vers le juif.
« Quel démon, dit-il, t'a inspiré cette conjecture ?»«
Qu'importe, si elle est vraie, » répondit le juif en souriant.
« Or, si j'ai deviné vos désirs, je puis également les satisfaire. » »«
Mais considère mon caractère, mon costume, mes vœux.
Je vous connais, vous autres chrétiens. Je sais que les plus généreux d'entre vous, par un entraînement superstitieux, prennent le bourdon et les sandales et s'en vont nu-pieds visiter le tombeau d'un homme crucifié.
Ne blasphème pas, juif.
Pardon, si j'ai parlé inconsidérément. Mais vous avez laissé échapper hier au soir et ce matin des paroles qui, comme des étincelles jaillissant du caillou, font connaître le métal qu'il recèle. Et sur le cœur que recouvre cette robe de pèlerin est cachée une chaîne d'or telle qu'en portent les chevaliers.
J'ai aperçu ce trésor, et je l'ai vu briller ce matin, lorsque vous vous teniez penché sur mon grabat.
Le pèlerin ne put s'empêcher de sourire.
« Si un œil aussi curieux que le tien pénétrait sous tes vêtements, lui dit-il, quelle découverte n'y pourrait-il pas faire ?»«
Ne parlez pas ainsi, reprit le juif en changeant de couleur, et tirant en hâte son écritoire comme pour couper court à une telle conversation, il appuya sur sa toque jaune une feuille de papier et se mit à écrire sans descendre de sa mule. Donnant ensuite ce billet, tracé en caractère hébraïque au pèlerin, il lui dit « À Leicester, tout le monde connaît le riche israélite Kirgat Jairam, de Lombardie. Présentez-vous chez lui avec ce billet. Il a en vente 6 armures de Milan, dont la moins riche est digne d'un prince. 10 superbes coursiers dont le moindre conviendrait à un roi qui va combattre pour sa couronne. Choisissez parmi ses chevaux et ses armures ceux qui vous conviendront le mieux et prenez tout ce qui pourra vous être nécessaire pour le tournoi. Après la lutte, vous lui rendrez le tout en bon état, à moins que vous ne préfériez en payer le prix.
Mais, Isaac, dit le pèlerin en souriant, oublies-tu donc que dans un tournoi, le cheval et les armes du vaincu deviennent la propriété du vainqueur?
Oui, telle est la loi. Or, je puis être malheureux et perdre ce que je ne pourrais ni rendre ni payer.
Non, 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 s'écria-t-il, cela est impossible. Je ne veux pas y penser. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Ta lance sera aussi formidable que la verge de Moïse. »
À ces mots, il tournait la tête de sa mule pour partir, quand le pèlerin, à son tour, le saisit par le manteau.
« Isaac, lui dit-il, tu ne connais pas encore tous les risques auxquels tu t'exposes. Le cheval peut être tué, l'armure endommagée, car si j'entre en lice, je n'épargnerai ni mon coursier ni mon armure. D'un autre côté, les gens de ta nation ne donnent rien pour rien, et il est juste que je paye quelque chose pour la location. » Étourdi par une telle perspective, le juif pâlit, mais, faisant un effort sur lui-même, « N'importe, dit-il, n'importe. S'il y a quelque dommage, il ne vous en coûtera rien. Kirgat Jairam passera sur ce déficit pour l'amour d'Isaac, son parent. Adieu. « Cependant, écoutez, bon jeune homme, dit-il en se retournant et en montrant au pèlerin un visage bouleversé par la crainte. Ne vous laissez pas trop emporter dans ce vain tumulte. Ce n'est pas que je veuille dire que vous n'exposiez pas trop le cheval ni l'armure. C'est de votre vie que je parle. »«
Grand merci de ta sollicitude, dit le pèlerin souriant de nouveau. Je profiterai de ta courtoisie, et j'aurai bien du malheur si je ne puis t'en tenir compte. »
Le juif s'agitait sur sa selle comme un homme qui éprouve un accès de colique. Mais ses sentiments habituels ne purent l'emporter sur ceux qui l'éprouvaient en ce moment. Ils se séparèrent et prirent chacun une route différente pour rentrer dans Sheffield.